Chacun des quatre éléments est entré tout entier dans la composition du monde, car son auteur l'a composé de tout le feu, de toute l'eau, de tout l'air et de toute la terre, sans laisser en dehors de lui aucune portion ni puissance d'aucun de ces éléments. Son dessein était en premier lieu qu'il y eût autant que possible un animal entier, parfait, et formé de parties parfaites, et en outre qu'il fût un, vu qu'il ne restait rien dont aurait pu naître quelque chose de semblable, et en dernier lieu, pour qu'il échappât à la vieillesse et à la maladie. Il savait en effet que, lorsqu'un corps composé est entouré du dehors et attaqué à contre-temps par le chaud, le froid et tout autre agent énergique, ils le dissolvent, y introduisent les maladies et la vieillesse et le font périr. Voilà pourquoi et pour quelle raison le Dieu a construit avec tous les touts ce tout unique, parfait et inaccessible à la vieillesse et à la maladie. Pour la forme, il lui a donné celle qui lui convenait et avait de l'affinité avec lui. Or, la forme qui convenait à l'animal qui devait contenir en lui tous les animaux, c'était celle qui renferme en elle toutes les autres formes. C'est pourquoi le Dieu a tourné le monde en forme de sphère, dont les extrémités sont partout à égale distance du centre. Cette forme circulaire étant la plus parfaite de toutes et la plus semblable à elle-même, car il pensait que le semblable est infiniment plus beau que le dissemblable. En outre, il arrondit et polit toute sa surface extérieure pour plusieurs raisons. Il n'avait en effet besoin ni d'yeux, puisqu'il ne restait rien de visible en dehors de lui, ni d'oreilles, puisqu'il n'y avait non plus rien à entendre. Il n'y avait pas non plus d'air environnant qui exigeât une respiration. Il n'avait pas non plus besoin d'organes, soit pour recevoir en lui la nourriture, soit pour la rejeter après en avoir absorbé le suc. Car rien n'en sortait et rien n'y entrait de nulle part, puisqu'il n'y avait rien en dehors de lui. L'art de son auteur l'a fait tel qu'il se nourrit de sa propre perte, et que c'est en lui-même, et par lui-même, que se produisent toutes ses affections et ses actions. Celui qui l'a composé a pensé qu'il serait meilleur s'il se suffisait à lui-même que s'il avait besoin d'autre chose. Quant aux mains qui ne le serviraient ni pour saisir ni pour repousser quoi que ce soit, il jugea qu'il était inutile de lui en ajouter, pas plus que des pieds ou tout autre organe de locomotion. Il lui attribua un mouvement approprié à son corps, celui des sept mouvements qui s'ajustent le mieux à l'intelligence et à la pensée. En conséquence, il le fit tourner uniformément sur lui-même à la même place, et c'est le mouvement circulaire qu'il lui imposa. Pour les six autres mouvements, il les lui interdit et l'empêcha d'errer comme eux. Comme il n'était pas besoin de pieds pour cette rotation, il l'enfanta sans jambes et sans pieds. C'est par toutes ces raisons que le Dieu qui est toujours, songeant au Dieu qui devait être un jour, en fit un corps poli, partout homogène, équidistant de son centre, complet, parfait, composé de corps parfaits. Au centre, il mit une âme. Il l'étendit partout et en enveloppa même le corps à l'extérieur. Il forma de la sorte un ciel circulaire et qui se meut en cercle, unique et solitaire, mais capable, en raison de son excellence, de vivre seul avec lui-même, sans avoir besoin de personne autre et en fait de connaissances et d'amis, se suffisant à lui-même. En lui donnant toutes ses qualités, il engendra un Dieu bien heureux. Mais cette âme dont nous entreprenons de parler après le corps ne fut pas formée par le Dieu après le corps, car en les unissant, il n'aurait pas permis que le plus vieux reçût la loi du plus jeune. Nous autres, qui participons grandement du hasard et de l'accidentel, il est naturel que nous parlions aussi au hasard. Mais le Dieu a fait l'âme avant le corps, et supérieure au corps en âge et en vertu, parce qu'elle était destinée à dominer et à commander, et le corps à obéir.